Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Premier rendez-vous hier entre Grégory Doucet et Véronique Sarcelli. Jean-Michel Aulas, lui, a choisi de démissionner de son mandat de conseiller d'arrondissement dans le 9e. L'équipe de Michel Picard confirme le dépôt d'un recours contre le résultat des élections municipales du 22 mars dernier. Notez que Raphaël Arnaud a pris la parole pour la première fois depuis la mort de Quentin Derenck. Le député LFI assure vouloir poursuivre son mandat de député. Et puis à la fin de cette édition, un focus sur l'association Elzop qui s'est donné pour mission d'offrir aux femmes entrepreneurs en devenir un accompagnement digital complet à un tarif solidaire. Explication avec Paola Minka, la coordinatrice de Elzop en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grégory Doucet et Véronique Sarcelli se sont donc rencontrés en tête à tête pour la première fois de leur mandat respectif. Lui, maire de Lyon, elle, présidente de la métropole. Le rendez-vous a fixé le cadre des relations de travail à engager entre la ville-centre et la métropole de Lyon, indique l'entourage de Véronique Sarcelli, sans s'attarder sur la teneur des échanges. L'entretien a été chaleureux et constructif, à en croire le cabinet du maire. Il a été question en tout cas des modalités de circulation sur certains axes fréquentés, en particulier en presqu'île. La rue Grenette, le projet rive droite du Rhône ou encore la zone à trafic limité. Point de convergence signalé par les équipes de Grégory Doucet, la prospérité du commerce lyonnais, pour lequel il est acté la nécessité de travailler conjointement pour trouver des solutions pour les commerçants. Véronique Sarcelli indique qu'elle ira d'ici à la fin du mois de juin à la rencontre des maires des 57 autres communes, accompagnée de la vice-présidente en charge des relations avec les communes, Sandrine Chadier. Jean-Michel Aulas, qui devait être le doyen des nouveaux élus du 9e, a choisi de démissionner de son mandat de conseiller d'arrondissement, et ce quelques jours avant la séance d'installation du conseil qui se tiendra samedi à 10h30. L'ancien patron de l'Olympique lyonnais a choisi, d'après son entourage, de se consacrer pleinement à ses deux mandats de conseiller municipal d'opposition, président du groupe Cœur Lyonnais, et de premier vice-président de la métropole de Lyon, délégué au rayonnement et au partenariat métropolitain, à l'innovation et en charge des grands projets. L'équipe de Michel Picard, maire communiste déchu, confirme le dépôt d'un recours contre le résultat des élections municipales du 22 mars dernier à Vénissieux, élections qui lui ont fait perdre la ville, une ville communiste depuis 90 ans, et ce à 25 voix près, derrière Idir Boumerti, le député LFI devenu donc maire de Vénissieux. À Vénissieux, deux recours ont déjà été lancés par un habitant pour l'un et par le candidat Pascal Dureau pour l'autre. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a jusqu'au 22 juillet prochain pour se prononcer. Aucune décision du tribunal administratif n'interviendra avant ce terme. Raphaël Arnaud a pris la parole pour la première fois depuis la mort de Quentin Derenck, dans laquelle certains de ses proches sont impliqués. Le député LFI a assuré vouloir poursuivre son mandat de député dans un entretien aux médias en ligne Blast. Raphaël Arnaud raconte avoir reçu énormément de messages qui le sollicitent pour son travail de député, notamment pour qu'il intervienne contre les fermetures de classe dans les écoles maternelles et primaires. Il y a une volonté évidente de retourner au travail, ni plus ni moins, explique le député, qui n'est pas mis en cause dans la mort de Quentin Derenck, mais qui a fait l'objet d'appel à la démission d'une partie de la classe politique en raison de la présence d'un de ses assistants parlementaires parmi les mis en cause. Le député a aussi déploré l'inversion des valeurs consistant à faire croire que l'ennemi serait l'antifascisme, insistant sur la longue histoire de la violence de l'extrême droite à Lyon. 242 fermetures de classes pour 82 ouvertures, soit un bilan de 160 classes en moins à la rentrée prochaine. Un comité social d'administration spéciale départementale chargé d'examiner la carte scolaire s'est réuni hier. 19 annulations de fermetures et 9 créations ont été arrachées concernant des écoles à Chabanières, Chassieux, Cogny, Cours, Francheville, Givors, les 4e, 6e et 9e arrondissements, Pommiers, Saint-Fons, Saint-Priest, Vaux-en-Velin, Vénissieux et Villeurbanne. Notez que le SNUDI FO appelle à poursuivre la mobilisation jeudi et vendredi avant une dernière étape de validation durant les congés.
Lyon Demain, planète, c'est féminin.
Entreprendre est un parcours semé d'embûches, particulièrement pour celles qui se trouvent éloignées de l'emploi ou en situation de précarité. Pour ces femmes, l'aspect technique, créer un site web, élaborer une identité visuelle ou définir une stratégie sur les réseaux sociaux, représente souvent une barrière infranchissable. L'association Elzop s'est donnée pour mission de briser ce plafond de verre technologique en offrant aux entrepreneurs en devenir un accompagnement digital complet à un tarif solidaire. Nous avons rencontré Paola Minka, c'est la coordinatrice de ELSOP en région Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est une association loi 1901, mais surtout un programme solidaire que nous avons lancé il y a quelques mois. Nous l'avons mis sur pied pour accompagner les femmes entrepreneurs qui se lancent et qui soit n'ont pas de compétences dans le digital ou alors n'ont pas assez de budget pour faire appel à un professionnel du digital. Donc l'idée, c'est de digitaliser et propulser les femmes entrepreneurs.
Vous êtes parti de quel constat pour créer cette structure ?
Le constat selon lequel plusieurs programmes d'accompagnement existent aujourd'hui en France, des incubateurs, des associations, mais la plupart, si je me le permettre de dire, sont axés sur la théorie, c'est-à-dire que les programmes, on va parler de l'idéation, de la structuration, de l'étude de marché, le business plan. Bref, c'est bien, vu que je suis bénévole également dans certains de ces programmes. On peut même parler de la communication, mais c'est du point de vue théorique. Donc aujourd'hui, on s'est demandé, quand une femme entrepreneur veut se lancer, de quoi a-t-elle concrètement besoin en termes d'outils pour sa communication? Voilà un peu d'où est parti le constat, et surtout un constat financier, parce que les outils de communication coûtent en moyenne dans les 2500 à 3000 euros quand on se lance, et on n'a pas toujours le budget à allouer pour cela dès lors que l'activité ne tourne même pas encore.
Alors vous n'êtes pas du tout dans ces budgets-là, vous êtes plutôt dans les 270 euros, hein, c'est ça?
Exactement, on a essayé de se dire on va prendre juste le dixième, parce que en valeur réelle, les outils que nous proposons sont exactement à 2700 euros sur le marché. Donc le dixième, c'est le tarif solidaire pour permettre à ces femmes-là de bénéficier des outils professionnels, parce que nous avons beau être dans un cadre associatif, mais tous les intervenants auprès de l'association, auprès du programme, sont des professionnels de leur domaine. Donc lui, c'est 270 euros.
Et c'est important évidemment de communiquer, c'est un petit peu la clé de voûte de l'entrepreneuriat aujourd'hui, de communiquer, c'est des choses que ces femmes n'avaient pas jusqu'à présent?
Exactement, parce que beaucoup ont des compétences, de beaux projets. On en rencontre chaque jour, et pour moi, l'une des choses que j'aime passionnellement dans ce programme, c'est la découverte des métiers que je ne savais pas que ça existait du tout. Et après, on se dit oui, j'ai cette compétence, oui, je suis capable de faire ceci, mais si les gens ne sont pas au courant, en fait, comment on fait? Donc ça sert à rien. Donc la communication justement devient un pilier incontournable par rapport à tout projet entrepreneurial.
Qu'est-ce que vous leur proposez alors durant ce cursus?
Ça dure déjà 4 mois, essentiellement sur le digital, et donc le programme, il a 4 piliers. Le premier, ce sont des ateliers, parce qu'on ne peut pas donner une charte graphique par exemple à une entrepreneur qui ne sait pas ce que c'est. Donc on va finir de travailler, je vais dire du n'importe quoi, sur du jaune noir, parce que c'est ça que j'ai sous les yeux. Et après, demain, on va retrouver du bleu vert sur ses sites, sur son réseau. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, les ateliers nous permettent de poser les bases. Premier atelier, par exemple, c'est clarifier sa proposition de valeur, bien comprendre le message, elle s'adresse à qui. Ensuite, la charte graphique. Qu'est-ce que c'est? La stratégie digitale, le plan de com, la création de contenu, bref, le calendrier éditorial. Donc, on pose les bases. Ensuite, maintenant, on passe au mentorat qui vient donc compléter les acquis des ateliers. Et donc là, on a des mentors qui accompagnent 2 heures par mois les participantes, à raison d'une heure toutes les 2 semaines. Et puis, on entre dans le cœur du programme, donc les livrables, ce que les participantes obtiennent concrètement à la fin du parcours, notamment l'identité visuelle, logo, charte graphique, carte de visite, papier en tête, donc le B.A.B.A. Ensuite, le site internet, nom de domaine, hébergement, 1 an inclus. Et pour finir, un kit pour les réseaux sociaux ou alors des supports de communication comme des templates PowerPoint. Et le dernier élément de notre programme, c'est la formation. 3 heures et demie de prise en main. Donc, je dis 3 heures et demie parce qu'on a des participantes qui ont 60 ans et quand on a 60 ans, il faut un tout petit peu plus de temps pour s'acclimater aux outils de cette ère, voilà.
Alors, qui encadre ces ateliers? Ce sont quoi? Ce sont des bénévoles jusqu'à présent, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, jusqu'ici, ce sont des bénévoles formateurs que nous avons pour chacun de nos ateliers. Pareil aussi pour le mentorat, ce sont des experts bénévoles qui donnent de leur temps. Pour les livrables, ce sont des professionnels, donc des designers graphiques, des développeurs web, qui s'engagent avec nous via le mécénat de compétences. Et ce sont également des agences de communication, voilà, qui décident, par exemple, de prendre sous leur responsabilité 1 à 2 sites par cohorte, etc. Donc, ce sont des professionnels qui s'engagent auprès de nous.
Quels sont les publics que vous voulez cibler? On a compris que c'était des femmes, mais quel est le public plus précisément? Quel est le profil?
Alors, le profil plus précisément, je dirais, ce sont des femmes qui se lancent. Donc, le projet est encore peut-être naissant. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des participantes qui n'ont même pas le nom de leur projet, qui n'ont pas bien clarifié l'offre. Donc, des projets naissants, des projets déjà en cours de développement, c'est-à-dire que peut-être l'entreprise est déjà immatriculée, mais manque de visibilité. L'entreprise aussi peut déjà avoir ses premiers clients, mais veut passer au cap supérieur. Donc, on prend aujourd'hui des projets à différents stades d'avancement. Mais la beauté de la chose, c'est que chacun va à son rythme et la fin, voilà, tout le monde repart content.
Et l'objectif, c'est de créer une entreprise. Hein. C'est important de créer sa propre boîte, par exemple, pour faire son métier, quoi.
Oui, parce que dès lors qu'on décide de se mettre à son propre compte, aujourd'hui, on a eu des participantes qui me disent, écoute, là, moi, j'ai travaillé 30 ans, DRH. Maintenant, je sens que je dois me mettre à mon propre compte. Je ferme la porte au salariat. Je veux vivre quelque chose de différent. On a aussi des personnes en reconversion professionnelle. Donc là, on a une participante qui était dans le cinéma et qui est en train de complètement aller du côté de la cuisine. Elle est chef traiteur, voilà. Donc dans ce sens-là, c'est donc important de formaliser les choses. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a des permanences même qui accompagnent ces femmes-là à choisir leur statut juridique, à ne pas commettre d'erreurs. Mais surtout, en fait, on voudrait s'assurer qu'au terme de la formation, au terme de ce parcours, il y ait véritablement une création d'entreprise. Parce qu'un site internet sans entreprise formalisée, on ne peut pas facturer.
Le digital et la communication, c'est important pour justement pour créer son activité. C'est un petit peu la différence finalement quand on est salarié où tout ça est pris en charge par la boîte qui vous emploie.
Bien sûr, parce que quand on est pris en charge par la boîte qui nous emploie, on ne connaît pas le mécanisme, la machine derrière. On vient, on travaille, on rentre. Donc il y a peut-être un département marketing qui va se casser la tête pour des slogans de pub, pour ceux qui, pour les entreprises qui le font, etc. Donc on ne connaît pas toute la machine qu'il y a derrière, on vient, on se concentre sur son travail. Si je suis dans les RH, je fais mon travail. Si je suis à la paye, je fais mon travail, etc. et je rentre. Mais dès lors que je décide de me mettre à part pour porter tout un projet, alors du coup, je me trouve avec 10 casquettes. J'ai beau être RH, mais je dois gérer la facturation. Je dois gérer la com, le marketing, le commercial, en fait. Je gère tout ce que je n'avais pas à gérer quand j'étais salarié. Je m'occupais juste de mon poste, d'un seul poste. Mais là, je me retrouve avec pas mal de casquettes. Et l'une des casquettes qui est donc très challengeante et très compliquée quand on n'a pas d'expérience, c'est la communication et surtout le digital à l'ère où on a des algorithmes qui changent tout le temps. Instagram, LinkedIn, Facebook. Donc oui, c'est un peu challenge.
Une fois que ce passage chez vous a eu lieu, il y a quoi? Il y a des permanences? On peut encore s'appuyer un peu sur votre structure?
Voilà, ça, je réponds à une petite question qu'une participante m'a posée en décembre. Elle m'a dit, rassure-moi qu'après la formation en janvier, on va pas être jeté dans la nature. Ça, ce sont ses mots exacts. Et puis, j'ai dit, non, t'inquiète, on vous jette pas dans la nature parce qu'après les 4 mois, on se met quand même 8 semaines de suivi pour s'assurer que tous les outils sont effectivement bien pris en main. Mais surtout, l'avantage, c'est que nous, on n'est pas, c'est pas un programme micro-ondes, c'est-à-dire ou un programme fast-food. Je viens, j'ai mes frites, mon burger, je rentre, terminé. Non, il y a un dynamisme de cohorte, donc ça veut dire qu'on veut bâtir une communauté derrière. Donc du coup, on a nos groupes d'échange. Ça fait en sorte que si une personne veut lancer un nouveau projet, quelque chose, des avis, on pose des questions. Si même après la formation, je rencontre des difficultés avec le site, écoute Paola, j'arrive pas à modifier ceci, c'est vrai, on l'avait vu, mais j'arrive pas. Est-ce qu'on peut intervenir? On intervient. Pareil pour les mises à jour. Donc on ne crée pas, il n'y a pas une déconnexion. Après les 4 mois, bien au contraire, on essaye de maintenir justement le lien. Il y a des participants même qui nous demandent, parce que normalement dans la cohorte, chaque mois, on a des rendez-vous mensuels où on échange, on prend les nouvelles de tout le monde. Il y a des participants qui nous ont demandé est-ce qu'on peut maintenir ça, peut-être pas mensuellement, mais au moins tous les 2-3 mois pour savoir ce que chacun devient, ce que chacune devient, etc. Et par-dessus tout, donc, nous voulons organiser un événement en présentiel pour retenir pour revoir toutes ces personnes-là et voilà, mettre ce contact un peu humain et plus chaleureux.
Est-ce que vous avez réussi à mesurer l'impact de votre action par rapport aux premières cohortes qui ont été mises en place?
Alors oui, l'impact il est même progressif parce que aujourd'hui ce que le programme proposait en juillet, c'est pas ce que nous proposons là en mars. Donc en juillet, on avait quelques ateliers, on n'avait même pas de mentorat. Et puis après, à la cohorte de septembre, on a introduit le mentorat. Cette cohorte de mars, en plus du mentorat, nous introduisons donc des permanences. Donc, je peux dire, le programme, il est surtout progressif, il s'améliore. Mais une des choses qui nous touche particulièrement, c'est le fait que avant, on avait des participants en remplissant les formulaires qui mettaient « Comment avez-vous connu Elop ?» Mais LinkedIn, ok. Mais aujourd'hui, on a beaucoup bouche à oreille. Pour nous, c'est de l'impact, en fait. Ça veut dire que on parle de nous et ça, c'est intéressant pour nous d'avoir ces chiffres-là. Et aujourd'hui, c'est drôle d'avoir dans une cohorte même des personnes qui n'ont pas encore bénéficié complètement du parcours, mais je peux dire tel a amené tel dans la même cohorte. Donc là, pour l'accord de mars, on a deux sœurs, par exemple. L'une est venue, elle a eu un entretien avec moi. Elle a dit non, ça, ce programme, il me le faut. Et il le faut à ma sœur qui est aussi entrepreneur. Et voilà.
Vous avez un rendez-vous également à Paris le 15 octobre, un événement annuel que vous voudriez ensuite emmener un petit peu dans les régions.
Exactement. Donc le 15 octobre sera notre premier rendez-vous annuel en présentiel avec donc les partenaires qu'on a eu jusqu'ici, les mentors, les bénévoles formateurs, toutes les participantes. Et aussi, on va ouvrir au public. Et après, par la suite, on va l'organiser dans les régions. Parce que pour nous, ça sera un moment, un moyen d'être plus proche de la cible. Parce que le programme aujourd'hui, il est national, on peut candidater de n'importe où en France, mais après, on voudrait véritablement aller dans les régions. Donc après Paris, première région, ça sera l'Auvergne, ça c'est clair.
Merci Paola Minka, coordinatrice de Elop.
Exactement, donc, coordinatrice, responsable de programme. Bref, la personne avec laquelle la plupart, tous les entrepreneurs sont d'abord en contact, parce que c'est moi qui fais passer les petits visios avant la validation des candidatures.
Paola Minka, coordinatrice de Elzop en région Auvergne-Rhône-Alpes, un site internet pour tenter de rejoindre une cohorte, elzop-entreprendre.fr. Et puis notez cette information technique, mais qui va vous concerner si vous êtes en voiture. Un radar de vitesse pérenne a été installé hier sur le quai Maréchal Joffre, axe particulièrement accidentogène où plusieurs personnes ont trouvé la mort, en particulier les jeunes Iris et Warren. Le radar ne flashera aucun automobiliste avant quelques semaines, le temps d'effectuer les travaux de raccordement. La doctrine nationale de la sécurité routière tendait à limiter l'installation de radars sur les axes limités à 30 km/h, mais une dérogation a été demandée par la préfète compte tenu de l'accidentologie, malgré les travaux à cet endroit. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la dernière édition de la semaine. Je vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute de nos programmes.